prière, âme de tout apostolat. Cher ami pèlerin, nous avons parcouru une longue route aujourd'hui. Nos pieds le savent bien. Jésus lui-même a beaucoup marché durant sa vie. Il a connu la fatigue et la soif. Un jour, alors qu'il était assis, fatigué au bord d'un puits, il dit à la Samaritaine « Donne-moi à boire ». Cette soif que nous connaissons tous permit à Jésus de nous révéler une soif plus profonde, celle qui habite le cœur de tout homme, la soif de l'eau vive. C'est précisément de cette soif que Jésus parla à la Samaritaine. « Si tu connaissais celui qui te demande à boire, tu lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » Il y a une centaine d'années, Dieu a donné à l'Église de France un homme qui a connu cette soif, cette eau vive et sa source, Don Chotard. Par son petit livre, « L'âme de tout apostolat », il a guidé des millions d'âmes vers l'eau vive. Don Chotard y analyse la parole de Jésus attristée. « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez. » Que propose Jésus pour rendre la mission efficace? Des plans? Des stratégies? Non. Il dit simplement « prier ». Pas d'abord des moyens humains, mais la prière, source de l'eau vive. Aujourd'hui, à la suite de Don Chotard, nous allons méditer sur les trois étapes essentielles pour entrer dans la vie intérieure et devenir des missionnaires de l'eau vive. 1. Découvrir ce qu'est l'eau vive. 2. Puiser l'eau vive. 3. La transmettre aux autres. Mais avant de commencer cette méditation, invoquons l'Esprit Saint, source de toute lumière intérieure. Qu'est-ce que l'eau vive? Pour Don Chotard, la source de l'eau vive, c'est Dieu. Vous seul, dit-il, Trinité adorable, êtes la vie éternelle, parfaite. Dans leur relation éternelle de connaissance et d'amour, le Père, le Fils et le Saint-Esprit vivent d'une intimité infinie et c'est cette vie qu'ils veulent nous communiquer. C'est pourquoi Jésus nous invite à puiser en lui la vie divine, celle pour laquelle nous avons été créés. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Allons à Jésus et buvons. Si la source est Dieu lui-même, l'eau vive qui en jaillit est donc sa propre vie. Jésus nous l'a dit. Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Cette vie divine nous est transmise par le baptême et les autres sacrements. Elle nous transforme en profondeur. Elle fait de nous des enfants de Dieu et nous sanctifie. C'est la grâce sanctifiante. Cette eau vive vient aussi fortifier nos forces et nous aider à agir, selon Dieu, dans les situations concrètes. C'est la grâce actuelle. En somme, l'eau vive dont nous parle Jésus, c'est la grâce de Dieu, sanctifiante pour nous transformer intérieurement, actuelle pour nous aider dans l'action. Dans la mission, Jésus est comme notre batterie spirituelle. Sans lui, nous sommes à plat. Avec lui, nous rayonnons. Il a affirmé « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est la phrase que Don Chotard a écrite en tête de son livre, « L'âme de tout apostolat ». Sans moi, vous ne pouvez rien. Rien. Cette eau vive nous est offerte, mais comment la recevoir concrètement? Invoquons l'Esprit Saint pour lui demander. Comment puiser l'eau vive? Souvenez-vous, amis pèlerins, comment Jésus a transformé le monde. Il avait promis à ses apôtres d'envoyer l'Esprit de vérité. L'Esprit Saint est descendu sur eux, sous forme de langue de feu, les transformant en hommes intérieurs. Et leur prédication a porté du fruit. Avant de recevoir l'Esprit Saint à la Pentecôte, ils étaient sans force, sans feu intérieur. Ils ont été transformés et à leur parole, 5000 juifs ont demandé le baptême, 3000 le jour de la Pentecôte et 2000 convertis quelques jours après. Soit le quart de notre pèlerinage, 5000 convertis par deux prédications. Quelle puissance, quelle fécondité! Et pourtant, ceux qui prêchaient ne recherchaient aucun effet. C'étaient des pêcheurs de Galilée, non des orateurs professionnels. Ce fut le premier miracle de la vie intérieure. Telle est la leçon de la Pentecôte. Nous ne portons du fruit que si nous avons une vie intérieure solide, que si le Seigneur habite en nous par la prière. Dans les évangiles, on voit à quel point il est important de vivre avec Jésus et de faire partie de ses amis. Il nous attire à lui, il nous apprend à nous mettre à son école. C'est seulement lorsque nous aurons formé Jésus-Christ en nous que nous pourrons facilement le transmettre. Saint Paul en était profondément convaincu. Il se répétait « Pour moi, vivre, c'est le Christ. » Mais pour vivre avec Jésus, il faut passer du temps en sa présence, comme le faisaient les apôtres et les autres disciples. C'est cela l'oraison, se tenir en présence du Maître qui nous appelle. Voici comment Don Chotard entrait dans la prière. L'heure de l'oraison est arrivée. Je veux m'arracher à la terre et me jeter en présence de ce Dieu dont l'activité toute d'amour m'enveloppe et me pénètre. Je suis alors en relation avec un interlocuteur vivant, adorable et aimable. Aussi j'adore profondément. Cela s'impose. Anéantissement, contrition, prestation de dépendance, prière humble et confiante pour que cet entretien avec mon Dieu soit béni. Pour réussir son oraison, il faut avant tout considérer Dieu comme une personne présente et vivante, et non comme un être lointain et passif. Dieu n'est pas une abstraction. Le Dieu devant qui je me tiens est infiniment personnel. Il me regarde, il m'aime tel que je suis, avec mes misères et mes péchés. Je suis le bon berger et je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. L'oraison, c'est un échange de regards entre amoureux. Mais attention, comme toute relation, la prière est souvent un combat. Il faut lutter pour rester fidèle. Comme notre marche vers Chartres, la vie intérieure demande de la persévérance. Les hommes et les femmes, appelés à transmettre la vie divine, doivent puiser à la source de la prière. Sans relation avec Jésus, sans disponibilité intérieure à la grâce, on tombe dans ce que Don Chotard appelle l'hérésie des œuvres, qu'on appelle aussi l'activisme. C'est lorsque l'action humaine prend la place de l'action de Dieu, lorsqu'on s'imagine que le succès de notre apostolat dépend uniquement de notre œuvre et non de la grâce divine, alors on s'épuise, on se disperse, on s'enorgueillit de ses réussites comme si elles venaient de nous. On se décourage de ses échecs, on ne prend plus le temps de la prière, on ramène tout à notre propre efficacité, on regarde la mission comme une œuvre purement humaine. Danger, car ainsi, déconnecté de la source de toute fécondité spirituelle, on n'est plus l'instrument docile de Dieu. Non, tout ne dépend pas de nous et de nos œuvres. Comme l'a si bien écrit Donoso Cortés, ceux qui prient font plus pour le monde que ceux qui combattent. Et si le monde va de mal en pis, c'est qu'il y a plus de batailles que de prières. Ce n'est pas par hasard si Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est la patronne des missions, elle qui n'a jamais quitté le Carmel. Elle y est entrée pour sauver les âmes et surtout afin de prier pour les prêtres, dira-t-elle. Elle offre ses sacrifices pour les missionnaires. C'est toute l'importance des contemplatifs dans l'Église. Ils sont en connexion directe avec la cause première de toute conversion, et pour cela, ils ont une efficacité redoutable. Après nous avoir abreuvés de sa grâce, Jésus nous envoie en mission. Une dernière question se pose alors. Comment devenir des porteurs d'eau vive dans un monde assoiffé? Invoquons l'Esprit Saint pour qu'il nous le fasse comprendre. Comment transmettre l'eau vive? Ami pèlerin, peu importe qui tu es ou le chemin que tu empruntes vers le ciel, si tu veux transmettre la vie de Dieu aux autres, tu dois d'abord la recevoir toi-même et en vivre pleinement. Souviens-toi de la parole lumineuse de Saint Bernard, « Soyez des réservoirs et non des canaux. » Le canal laisse passer l'eau sans en retenir une goutte. Le réservoir, lui, se remplit puis sans se vider, déverse un trop-plein toujours renouvelé dans les champs qu'il irrigue. Pour comprendre comment devenir ces réservoirs, tournons-nous vers ceux qui ont vécu cette mission avec intensité, les saints. Saint Dominique, par exemple, passait ses nuits en prière. Il voulait contempler longuement son Dieu pour ensuite transmettre aux autres le fruit de sa contemplation. Cela devint la devise de son ordre. Contemplata alis tradere. Transmettre aux autres ce que l'on a contemplé. Il voulait également obtenir par ses larmes le salut de tous. Mon Dieu, que vont devenir les âmes des pauvres pécheurs? Grâce à sa prière, l'ordre des frères prêcheurs a changé le visage de l'Europe. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, quant à elle, découvrit l'extraordinaire puissance de la prière à l'occasion de la condamnation à mort du criminel Pranzini. Elle fit célébrer pour lui des messes et récita des neuvaines, désirant de tout son cœur missionnaire sauver l'âme du pécheur endurci. Et contre toute espérance, elle obtint de la part de celui-ci un geste de repentir. Ce fut son premier enfant, dira-t-elle. Elle tâtonna ensuite pour trouver cette vocation qui transforma sa vie et écrit « Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour, et alors je serai tout. » Ami pèlerin, peut-être nous décourageons-nous devant le peu de résultats de notre action missionnaire. Sainte Bernadette, elle, ne se laissait pas arrêtée par l'incrédulité avec laquelle on accueillait son témoignage. « Je ne suis pas chargé de vous le faire croire, je suis chargé de vous le dire », répétait-elle. Même en ne paraissant avoir obtenu aucune conversion, un saint peut accomplir une œuvre immense. Saint Charles de Foucault ne baptisa presque personne en terre d'Afrique, et n'eut aucun disciple de son vivant. Pourtant, son œuvre invisible porta des fruits immenses jusqu'à nos jours. Il a ainsi illustré le mot de saint Jean de la Croix. Un seul acte de pur amour est plus utile à l'Église que toutes les autres œuvres réunies. En un mot, c'est en ayant Dieu en nous que l'on participe le mieux à l'œuvre du salut, à l'œuvre missionnaire. C'est pourquoi la dévotion eucharistique est au cœur de l'âme de tout apostolat. C'est de l'hostie sainte que jaillit l'élan missionnaire et c'est vers elle qu'il faut amener toutes les âmes. Pour évangéliser le monde, il faut des apôtres experts en célébration, adoration et contemplation de l'Eucharistie, confirmait Jean-Paul II. La Vierge Marie, reine des missions. Dans notre prière missionnaire, n'oublions pas le rôle capital de la Vierge Marie. Saint Dominique l'avait bien compris, lui qui développa la pratique du rosaire comme instrument missionnaire par excellence au début du XIIIe siècle. Par son fiat, par sa docilité parfaite, Marie est l'associée du Christ dans l'œuvre du salut. Elle est la reine des missionnaires et de la mission, comme le rappelle Pie XII. Aux âmes désireuses de vivre plus sincèrement et plus complètement la doctrine de Jésus, à celles qui brûlent de la faire connaître à d'autres, la Vierge Marie obtient la grâce de l'apostolat, elle met sur leurs lèvres les paroles qui convainquent sans heurter, elle les anime d'un zèle ingénieux et d'une affection humble, patiente et dévouée, sans laquelle l'apôtre risque bien vite de se lasser. Pourquoi est-elle si efficace? Parce que plus qu'une autre, elle porte Dieu en elle, comme au jour de la Visitation. Et nous rappelle que le secret de toute mission, c'est de porter Dieu en soi. Pas nos idées, pas nos projets, mais la présence vivante du Seigneur agissant en nous. Bien souvent, des personnes se sont rapprochées de l'Église et du Christ, parce qu'elles se sont d'abord rapprochées de Marie, par le chapelet, par la médaille miraculeuse, par la douceur de la prière mariale. Demandons donc que grandisse en nous la dévotion à Marie et confions les personnes que nous rencontrons à leur Mère du Ciel. Cher ami pèlerin, si nous voulons que notre monde redevienne chrétien, soyons d'abord des hommes et des femmes de prière. Nous serons alors des amis de Dieu, des réservoirs d'eau vive, des contemplatifs missionnaires.